want the future. Right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now.
Siliconemaniacs.org.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ici Denis Quentin Bruet-Ferréol. Je suis très content de vous accueillir sur la Silicon Radio dans Very Serious Geek, l'émission qui prend la culture pop trop au sérieux, au menu surinterprétation de séries TV, décodage de films cultes, exagération historique sur des jeux vidéo légendaires. Bref, Very Serious Geek, c'est la culture geek prise très qui a dit trop au sérieux. Et notre mantra, c'est quoi, Jessica ?
Il n'y a pas de surinterprétation.
Voilà, donc on va pouvoir se lâcher, surinterpréter des objets méprisés par tous et montrer à quel point ils sont totalement passionnants. Et déjà, la semaine dernière, on avait parlé d'un objet, alors c'est pas forcément un objet méprisé cette fois-ci, puisqu'on avait parlé de Minority Report, hein, l'adaptation du livre éponyme de Philip K. Dick. Je ne sais pas ce que tu en avais pensé, toi, Jessica.
J'avais bien aimé Minority Report, de toute façon.
J'avais bien aimé.
C'était assez intello pour moi, en fait.
Tu sais, c'était intello.
Quand on rigole pas beaucoup, tout ça, moi, j'ai toujours du mal à suivre.
On avait parlé des voiles dans Philip K. Dick, d'une société oppressive. On avait essayé de comparer le livre et le film. Donc je vous conseille de réécouter. Je mettrai le podcast en ligne ce soir ou demain, si tout se passe bien. Parce que bon, on avait été assez intello la semaine dernière, mais là, je crois que la température va augmenter sur la Silicon Radio, puisqu'on accueille encore une fois, Yann Min, avec lequel on va parler de métaphores sexuelles. Et je lui ai dit, on fait une soirée cybersex, alors de quel film veux-tu parler ? Et le film qu'il a choisi, Jessica, le film qu'il a choisi, c'est Matrix.
I've seen things you people wouldn't believe. Non, ne sais pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'essai.
Bonsoir Yann.
Bonsoir.
On est très content de te revoir. Ça fait longtemps.
Oh oui, ça fait une semaine. Donc là, je suis abonné.
Voilà, tu es abonné, tu as carte blanche, et je me suis dit que tu étais vraiment le plus indiqué pour parler de. Excuse-moi, mais tu es le plus indiqué pour parler de métaphores sexuelles dans le cinéma et dans les séries.
Oui, ça fait partie un peu de mes no-obsessions.
Oui, c'est no-obsessions et anciennes obsessions et obsessions contemporaines et obsessions futures peut-être même.
Oui, non, mais ça me passionne. Ça me passionne parce que c'est un langage caché. C'est des choses qu'on utilise en art depuis très très longtemps pour faire passer ou accentuer certains messages.
Comment ça depuis très très longtemps
C'est le jeu sur les métaphores sexuelles dans les œuvres d'art, c'est depuis l'aube de l'humanité.
Et, les grottes de Lascaux par exemple
Dans les grottes de Lascaux, là on est un peu explicite, il y a un grand mystère, bataille dans les larmes d'Eros s'interroge sur l'image dans les grottes de Lascaux de l'homme couché, qui est une des premières représentations d'un personnage en érection. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a un mystère derrière ce personnage, puisque cette image est cachée, elle ne fait pas partie de la grotte principale, il faut pouvoir escalader tout un système pour pouvoir y avoir accès. Elle est donc dans un endroit discret.
C'est une érection qui se mérite, quoi.
Voilà. Et ce qui est représenté, c'est pas un humain. C'est justement un personnage à tête d'oiseau. Donc on est dans quelque chose de mystérieux. Mais c'est extrêmement difficile de toute façon de se projeter dans les hommes de la préhistoire. Mais dans tous les cas, les représentations sexuelles sont présentes, sont souvent occultées dans les livres d'histoire ou dans les documents. Mais par exemple, à Kosker, il y a des représentations vulvaires et vaginales sculptées dans la roche. Donc les représentations sexuelles explicites, en tout cas, sont présentes. Après, il faut attendre un peu, une période très évoluée de notre histoire, qui est la Renaissance, où ça commence à être assez sophistiqué, notre relation à l'information est très sophistiquée, et où on va dire qu'il va y avoir un jeu des artistes de dissimuler des métaphores sexuelles dans leur peinture. La plus célèbre, la plus emblématique, est celle du martyr de Saint-Sébastien, qui est devenu emblématique de l'homosexualité, puisqu'on a une métaphore de pénétration phallique quasi, consciente de la part des peintres.
D'accord, donc vous écoutez bien Radio Notre-Dame. Nous sommes tous ensemble autour de Saint-Antoine pour prier. Mais alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, alors que les métaphores sexuelles étaient finalement extrêmement présentes, je pense à Titien, non, le Bernin, la vision de Saint-Thérèse d'Avila du Bernin qui a été énormément analysée, c'est cette vision d'extase de la sainte qui on dirait quand même une énorme, comment dirait-on, éjaculation divine.
Oui, absolument. Il y a d'ailleurs il y a plusieurs livres très très passionnants sur la sexualité liée à la religion, et en particulier il y a les phallophanies d'Alexandre Lepin, un livre qui s'appelle Les phallophanies, les apparitions du phallus, où il défend l'idée en fait que ça n'est que récemment dans notre histoire que l'Église catholique va occulter l'importance de la sexualité dans la religion. La sexualité, il a pas mal de textes et d'exemples où il met en évidence que la métaphore sexuelle fait partie du discours religieux dès les origines, et que c'est notre modernité qui va l'occulter.
Et alors notre modernité l'occulte parce qu'en fait certains sont assez choqués quand on leur dit qu'il y a des métaphores sexuelles dans les films aujourd'hui.
Alors c'est très étonnant, ouais, c'est un truc que j'adore, c'est pour ça que j'adore les étudier, parce qu'il y a un côté un peu potache à étudier les métaphores sexuelles dans les œuvres d'art, mais c'est aussi parce que j'ai découvert qu'elles dérangeaient. Elles dérangent objectivement, c'est-à-dire qu'on est dans une civilisation, une société où lorsque tu dis dans une soirée, dans une conférence, tiens, il y a des métaphores sexuelles cachées dans tel film ou dans telle œuvre ou dans tel roman, ça va déclencher beaucoup d'irritation. Donc il y a un processus d'occultation clair, alors que en fait moi ça vient tout bêtement du fait que dans mon école, hein, j'ai fait une école supérieure d'art, c'est une des premières choses qu'on nous apprend en art, c'est-à-dire en particulier pour la publicité, c'est à maîtriser les sens cachés, les symboles, les images discrètes.
Et bah, bravo.
À la fois soit pour mettre en exergue un discours, hein, pour renforcer un discours, soit pour éviter qu'il y ait des parasitages d'un discours par des métaphores qu'on n'aurait pas maîtrisées, qu'on aurait mises inconsciemment.
Parce que en termes de communication publicitaire, les métaphores sexuelles, elles sont omniprésentes. Ça, pour le coup, c'est absolument...
Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont parfois maîtrisées volontairement, je dirais, par la chaîne de production. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si souvent que ça. C'est-à-dire qu'en publicité, ils ont plutôt tendance, je dirais, officiellement, dans les chaînes de production, soit elles sont vraiment très volontaires, je pense en particulier dans certains packaging, mais on va plutôt les éviter. On va plutôt les éviter. Le secteur où elles sont maîtrisées le plus consciemment, c'est pas tellement la publicité, où en fait, c'est souvent le fait de jeux potaches des graphistes ou des concepteurs qui s'amusent à dissimuler. J'ai des exemples. J'ai une grande fierté, c'est que j'ai un site qui, si vous tapez métaphore sexuelle sur Internet, le premier site, la première page qui sort, c'est la mienne.
Eh ben, bravo.
Et où j'analyse
précisément.
Il faut
voir ton sourire de fierté.
Et je fais l'analyse un peu tout ça. Je donne pas mal de documents et d'informations. Et en gros, c'est surtout au cinéma que ça va être fait le plus volontairement. C'est-à-dire que les métaphores sexuelles vont être contrôlées par le réalisateur et par les auteurs de façon très, très maîtrisée. Et ça, l'un des plus célèbres à faire ça, parce qu'il le dit d'ailleurs, il l'affirme, c'est Hitchcock. Hitchcock, dans l'interview Hitchcock-Truffaut, dit à Truffaut, c'est un bouquin qui est passionnant, où Truffaut interview Hitchcock, et Hitchcock dit « La fin la plus impertinente que j'ai tournée, c'est la fin de La mort aux trousses. »
Ah oui, bah bien sûr.
Et
le tunnel.
Voilà, le fameux tunnel. Et alors, en fait, la fin du film, c'est que on a Gary Grant qui emmène l'héroïne dans une couchette de lit. Et la dernière image, c'est Gary Grant allongé donc sur l'héroïne du film, et le train pénètre dans un tunnel. Et donc depuis, c'est un peu un private joke.
Je vois pas pourquoi tu trouves ça sexuel. Tu vois du sexe partout.
Voilà, c'est un private joke de cinéphile. Maintenant, chaque fois que dans un film, maintenant actuellement, on voit un train pénétrer dans un tunnel, on sait que c'est un clin d'œil à cette scène de Hitchcock.
Oui, mais alors comment on fait? Mais donc, je veuille simplement montrer que mes personnages se déplacent de façon ferroviaire d'un point à un autre. Est-ce qu'il faut que je ne monte pas le train afin que Yan Min ne l'interprète pas comme un signe sexuel ?
Ben, il faut, si tu ne veux pas, effectivement, qu'il y ait... C'est précisément un des devoirs, en tout cas, d'un certain niveau de traitement de l'information. C'est-à-dire, pour moi, l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information. Quand tu fais une œuvre comme le cinéma, qui c'est aussi sophistiqué que les peintres de la Renaissance, hein, c'est jamais par hasard que tu mets quelque chose dans l'image. Tu es censé maîtriser à la fois ce que tu y mets et ce que tu ne veux pas y mettre. Donc si tu mets des métaphores sexuelles sans savoir que tu es en train d'en mettre, bah, c'est un peu une erreur, hein, à notre époque. C'est-à-dire, ça veut dire que tu ne maîtrises pas vraiment ton métier, ton art et ton niveau de traitement de l'information. Et il faut bien penser que les réalisateurs de cinéma actuellement sont aussi sophistiqués, sinon plus, hein, dans leur travail que les peintres de la Renaissance. Il n'y a vraiment pas de hasard lorsque dans des films à plusieurs millions de dollars de budget, ils mettent quelque chose. Hein. Chaque plan est conçu et imaginé, et surtout depuis que des grands maîtres du cinéma comme Hitchcock ont expliqué leur technique. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que Hitchcock va le dire clairement. Et Truffaut, d'ailleurs, dans cette interview, dit, oui, c'était à cause de la censure. Et ça a beaucoup enrichi le cinéma. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à l'époque, effectivement, il y avait un puritanisme tel aux États-Unis que la sexualité ne pouvait pas être abordée dans les films. Donc, ils étaient obligés de la traiter sous forme de métaphore, de façon très claire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que actuellement on pourrait et encore ça se discute le traiter de façon moins métaphorique, mais on s'est rendu compte, enfin les cinéastes se sont rendus compte que en ayant ce système de double narration, c'est-à-dire qu'en ayant une narration cachée qui vient se superposer, une narration métaphorique qui vient se superposer à la narration principale, on renforce l'impact émotionnel des films et des images. Et l'une des premières narrations les plus faciles à maîtriser, c'est la narration sexuelle, justement, c'est les métaphores sexuelles, parce qu'elles ne sont pas neutres du tout. C'est-à-dire que la sexualité étant un de nos moteurs émotionnels les plus puissants, et c'est aussi le moteur de la vie, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit en profondeur dans notre psyché.
C'est le cas de le dire.
Si on, parallèlement à une dramaturgie, on va introduire, si je puis le dire...
Ah oui, non, là, on va être à chaque mot, on va
des sourire. Métaphores sexuelles, on va renforcer l'impact émotionnel du film et de la scène.
Donc, s'il y a une sorte de bite cachée, ça a un impact émotionnel.
Oui,
c'est ça.
Absolument, parce que le conscient ne le voit pas, mais l'inconscient le perçoit. Et alors évidemment, ça c'est l'histoire du subliminal, hein, parce qu'on est en plein dans la notion de subliminal, c'est-à-dire en dessous du seuil de conscience. Et il y a un travail excellent qui a été fait par un chercheur en neurobiologie qui s'appelle Stanislas Dehaene, qu'on peut consulter sur le site du Collège de France, où il a fait des expériences sur la perception subliminale dans des systèmes de caissons à résonance magnétique nucléaire. Hein. C'était un financement d'ailleurs étonnant. C'était le CEA qui a financé ces recherches-là, le Commissariat à l'énergie atomique. Et donc il a mis en évidence qu'il y a bien perception d'informations subliminales par cerveau. Et ce qu'il a surtout mis en évidence, c'est que, en gros, c'est assez simple hein, à comprendre, lorsqu'une information cachée, alors dans le cadre de Dehaene, il travaille sur les fameuses images en dessous du seuil de perception visuelle, c'est-à-dire 25e, 50e de seconde, mais le cerveau les détecte. Sauf que si elles ne sont pas pertinentes, c'est-à-dire que si l'information subliminale n'est pas redondante au contexte, le cerveau n'en tient pas compte. En gros, si la fameuse légende de la salle de cinéma où on projetait en subliminal buvez du Coca-Cola et mangez des pop-corn au 50e de seconde, au 25e de seconde entre les images et que le public assoiffé sortait du film, c'est une légende. On sait d'où ça vient, ça n'a jamais existé, c'était une arnaque. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le message est trop complexe. Même si t'envoies en filigrane dans un film un message qui n'a rien à voir, qui est voter machin ou aller acheter ça, et que ça n'a rien à voir avec le film, le cerveau n'en tiendra pas compte. Par contre, si l'information subliminale est redondante, c'est-à-dire que par exemple, on va mettre juste une image de blanc lorsqu'il y a un coup de poing dans un film, l'impact de blanc va renforcer l'impact du coup de poing. Donc il y a une redondance et là le cerveau va en tenir compte. Et donc si on rajoute au film des informations subliminales, entre autres de nature sexuelle, mais il peut y en avoir d'autres, il y a les métaphores faciales aussi qui sont très puissantes, et que ces métaphores participent de la narration principale, l'implication émotionnelle et cognitive du spectateur va être décuplée.
Qu'est-ce que tu appelles métaphore faciale ? Ça n'a plus rien à voir avec le sexe ?
Alors justement, oui, les métaphores sexuelles sont drôles parce qu'elles sont potaches à étudier et à analyser, et elles sont faciles et justement elles prêtent à polémique. Il y en a d'autres métaphores qu'utilisent beaucoup les graphistes, ce sont les métaphores faciales, c'est-à-dire c'est les visages, hein, c'est les yeux, la bouche, le nez, et par exemple la maison dans Amityville, c'est un visage.
Oui, ouais, ou dans ce film de Robert Wise, Antise, où il y a des visages cachés.
Voilà.
Je parle pas du remake où là il y a des visages pas cachés du tout, puisque la maison a été modélisée en 3D et qu'avec sa grande finesse, je crois que c'est Jerry Bruckheimer a rajouté des yeux dans les fenêtres, c'est extrêmement vulgaire. Donc là, ça, c'est les métaphores faciales cachées.
Voilà. Et bah, si toi, t'es pris dans la narration, tu suis l'histoire, et puis si la maison fait une grimace, ton conscient ne le perçoit pas, mais ton inconscient, ton subconscient, je dirais plutôt que l'inconscient, parce que c'est pas freudien l'inconscient, donc la subconscience, donc capacité cognitive en dessous de la conscience, vont percevoir l'information.
Et alors, si on remonte à l'histoire américaine, on pense au puritanisme américain, quel exemple tu pourrais donner dans les années 30, 40, 50 films qui ont comme ça joué avec
exemple,
la censure?
C'est ça, hein, le meilleur exemple, c'est Hitchcock. Hein,
c'est La mort aux trousses.
Bah, c'est l'exemple le plus emblématique parce que Hitchcock le dit. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire Hitchcock va le dire dans l'interview Truffaut qu'il l'a fait volontairement. Parce qu'après, effectivement, on a les jeux de surinterprétation qu'on a le droit de faire, d'ailleurs, qui sont très agréables. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on sent chez le réalisateur, chez l'équipe de production, que volontairement, ils ont maîtrisé cette cette zone-là. Et c'est difficile à maîtriser. Hein. C'est pas si évident ça. C'est-à-dire que moi, je dis, il faut, dans ces histoires-là, non plus se mettre dans la position passive du spectateur, c'est-à-dire de regarder le film et de le digérer. Il faut se mettre à la place du réalisateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place dans cette scène-là. Et c'est là que, par exemple, sur des films comme Matrix, par exemple, c'est jubilatoire. Parce que dès qu'on inverse sa posture et qu'on se dit pourquoi est-ce que j'aurais tourné cette scène-là de cette façon-là, pourquoi, du coup, on s'aperçoit qu'elle sent un peu bizarre. Il y a un certain nombre de scènes dans Matrix où on se dit mais pourquoi ils ont tourné la scène de cette façon-là.
Mais alors, on va écouter un peu de musique de Matrix. On va écouter un petit peu de musique de Matrix. Est-ce que Neo est un sadomaso? Est-ce que Morpheus est un obsédé sexuel? Est-ce qu'il aurait dû prendre la pilule rouge ou la pilule bleue? Est-ce que la pilule bleue, ça aide à mieux bander? On va se poser toutes ces questions après un peu de musique.
My future. I don't know. I don't know. I don't see my future really right now, so...
Silicone Radio, le futur, prends le micro. Silicone Radio.
Alors moi j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, j'ai vu un film qui me plaisait trop. J'étais heureux, j'ai vu Matrix. Et en fait, t'es en train de me raconter que ce que j'ai vu, c'est l'histoire d'un type qui s'initie au sadomaso quand j'avais 16 ans.
Ouais, exactement. Exactement.
Alors... Merci Yann, merci beaucoup de ruiner mon enfance.
Tu viens de te faire gravement manipuler subliminalement pour t'orienter vers le sadomasochisme en regardant Matrix. Alors évidemment là je suis en pleine surinterprétation dans le sens que je n'ai pas de documents à la différence d'Hitchcock ou Ridley Scott qui confirme, qui dit qu'ils ont fait volontairement. Mais c'est difficile d'imaginer, je vais te dire pourquoi, quand tu vas voir les scènes, qu'ils l'ont fait involontairement ou inconsciemment. C'est, en gros, moi je dis la double narration, c'est-à-dire la seconde narration de Matrix, c'est l'initiation sadomasochiste d'un petit jeune. C'est-à-dire tu as un petit jeune qui est Neo, qui va, pendant les trois films, on va l'initier à des pratiques sadomasochistes BDSM, assez soft en fait.
Alors, BDSM, pour nos auditeurs qui n'ont pas encore acheté leur fouet. Et qu'il se dépêche.
Alors, c'est un acronyme intéressant parce qu'il y a quatre lettres qui disent, qui décrivent six mots. C'est-à-dire, c'est bondage, domination, sadisme, masochisme, et soumission, et ça y est, j'ai oublié, j'ai un blanc, le sixième.
Pourtant, c'est ton domaine.
Voilà, mais c'est bon, à chaque fois, j'en oublie toujours, hein, mais enfin, c'est ça. Donc, c'est un acronyme qui est intéressant. Alors, on va juste faire une aparté sur le BDSM, parce que c'est important. C'est-à-dire qu'avant, on parlait soit d'algolanie, pour parler de la souffrance, du plaisir dans la souffrance, soit du sadomasochisme. L'algolanie, c'est le terme scientifique pour parler du masochisme. Hein. Masochisme étant né d'une fiction, d'ailleurs, le masochisme est né d'une fiction qui est Sacher Majos, hein, et sadisme est aussi lié d'une fiction qui sont les écrits de Sade. Et avant, on parlait de sadomasochisme jusque dans les années, je dirais, 90, où va se populariser cet acronyme BDSM, qui est important parce qu'il induit, des pratiques qui sont entre adultes consentants et dans le respect de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un processus communautariste qui se met en place pour définir, en fait, ou induire des règles morales qui fait que ça devient très ludique. On sort, de choses très, très hardes. Ça va éliminer les relations de sadomasochisme qui peuvent être violentes.
Finalement, c'est la violence conjugale au service du couple.
On va dire que c'est des jeux sensuels consensuels. Des jeux sensuels consensuels entre adultes consentants. Mais surtout, ça va aussi définir une esthétique, l'esthétique fétichiste, un art. Derrière cet acronyme BDSM, il y a tout un champ esthétique et artistique important. Et on va le retrouver justement dans Matrix. C'est-à-dire, on va retrouver dans un certain nombre de films, un certain nombre d'œuvres, ce champ esthétique-là qui est décrit par ce terme-là maintenant.
Alors, prenons Neo au départ. Alors, Neo, si on prend le premier film, il est tranquille chez lui. Il faut avouer qu'il n'a pas l'air très épanoui. Il a un job de merde. Il est tout seul. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une femme qui la porte s'ouvre et il y a trois nanas complètement canon. Moi, je me rappelle de ça.
Habillée très fétiche. Hein.
Habillée très fétiche, avec un petit lapin blanc, voilà. Tatoué. Néo est intrigué.
Voilà. Et là où c'est vraiment explicite, j'ai donné plusieurs clés. Hein. Bon, d'abord, il y a effectivement les vêtements, la façon dont ils sont habillés. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parlait de Blade Runner, mais c'est aussi pareil. Hein. La façon dont Price est habillé dans Blade Runner est aussi fait référence au fétichisme.
Price l'androïde.
Et là, il y a plusieurs scènes qui sont intéressantes. Lorsque Neo donne rendez-vous à Trinity, il se retrouve. C'est des super geeks, nerds, hackers de la mort,
voilà,
dans le monde réel.
Pas encore.
Voilà, dans le monde réel, où est-ce que les hackers se donnent rendez-vous ? Les hackers se donnent rendez-vous dans des pizzerias, dans des McDo, enfin dans des lieux assez anecdotiques. Et là, si vous regardez le film, ils se donnent rendez-vous dans un lieu assez improbable pour discuter. C'est quand même une boîte de nuit. Et alors, si vous regardez image par image ce qui se passe dans la boîte de nuit, la scène commence avec Neo qui est appuyé contre un mur et qui est en train de regarder une scène de domination sadomasochiste avec visiblement un personnage plutôt de type travesti soumis par une dominatrice BDSM, justement. Donc, avec tous les éléments archétypaux du BDSM. Donc, les réalisateurs vont donc choisir de faire un rendez-vous dans un lieu qui n'est pas du tout neutre au niveau esthétique.
Je suis en train de t'imaginer te passer la scène d'intro image par image, en fait.
Ah, mais c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai vraiment avancé image par image, parce que comme dans Alien ou Blade Runner, le fait d'avancer image par image permet de déceler les images cachées, en fait, les images subliminales. Et l'autre chose très, très intéressante, par exemple, lorsque Neo se fait capturer par l'agent Smith, hein, l'interrogatoire est très intéressant, dans l'interrogatoire qu'il va subir dans la cellule, là, dans le commissariat. C'est qu'il se retrouve torse nu à un moment, quand même allongé, la bouche bâillonnée, et avec plusieurs mecs assez virils autour de lui.
La bouche qui disparaît, c'est ça.
Elle est néantisée. Il n'a plus de bouche. Et ils vont lui enfoncer dans le nombril, avec un appareil assez phallique, ils vont lui enfoncer une espèce de crevette dans le nombril. Donc cette scène est quand même, dès qu'on commence à la regarder sous sa dimension un peu sadomasochiste, très métaphorique. D'une pénétration sexuelle, d'un viol littéralement, qui se passe dans le commissariat.
Mais alors, comment tu l'impressionnes ? Comment tu l'interprètes ? Voilà ce que je voulais dire.
Je l'interprète dans le sens que, bien évidemment, il ne pouvait pas se permettre, dans un film grand public comme ça, de mettre une véritable scène. Ça aurait été beaucoup trop hard, d'ailleurs, pour tout le monde.
Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'elle signifie ? S'ils avaient, au bout de 10 minutes, montré le personnage principal se faire violer par deux policiers, on aurait été dans un genre cinématographique tout à fait différent. Mais là, ça signifie quelque chose par rapport, je sais pas, au pouvoir, par rapport à la sécurité. sexualité.
Bah, la sensualité. On a une. Alors, si on commence à interpréter, elle est très riche. Elle est. On est dans une pénétration donc sexuelle métaphorique où il se fait injecter une espèce de crevette informatique. Donc, il est en train littéralement de. Et c'est ça qui fait une des forces du film. Il est en train de, je dirais, d'avoir une relation sexuelle avec la technologie. C'est-à-dire la technologie, le monde virtuel, le monde informatique est en train de le baiser littéralement. Et le baiser de façon. Il est en soumis. Il est soumis à cette brutalité du monde informatique. Et c'est intéressant parce qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que cette scène-là ne sert à rien, dans le sens que la crevette qui lui a été injectée, il va la perdre. Quelques scènes plus loin, elle va disparaître. Et alors, la façon dont il perd cette crevette est intéressante aussi. C'est-à-dire qu'on dirait une scène de film pornographique. Ça se passe dans une grosse limousine,
ouais, dans une voiture.
À l'arrière sur le siège arrière d'une limousine, avec le chauffeur qui regarde dans le rétroviseur. Enfin, on a vraiment les archétypes d'une scène pornographique. Sauf qu'on a Trinity à califourchon sur lui qui va l'avorter, littéralement. C'est-à-dire qui va lui extraire la crevette avec une espèce de machine avorteuse. Et on a là encore une scène de domination sadomasochiste avec une dominatrice en train de faire une inverse, une pénétration sexuelle sur Neo.
Eh ben, je suis désolé, mais je vais reposer la même question. Comment est-ce qu'on interprète le fait qu'il y ait eu insertion puis avortement ?
Ben, moi, je l'interprète...
Par des personnages qui sont donc des antagonistes, hein, parce que d'abord, c'est les méchants, et ensuite, c'est Trinity.
Ben, ce qui va passer, c'est que... Moi, je dirais c'est dans la structure globale du film. C'est qu'on va se projeter dans le héros principal. Donc, le héros principal, pendant tout le déroulé du film, va, en général, être manipulé. C'est-à-dire, Neo passe son temps à se faire... C'est le surhomme à la fin, mais c'est un surhomme qui, pendant tout le début, est manipulé. Manipulé par les femmes, manipulé par le groupe, hein, par un groupe, en plus, très particulier. Donc là encore, dès qu'on a la métaphore sadomasochiste, on a vraiment le groupe BDSM qui est en train de l'initier. Et à travers Neo, on va être initié à une sensualité relativement violente et assez douce en fait, puisque il s'en tire bien à chaque fois. Il va devoir à chaque fois transgresser, il va devoir franchir des étapes de transgression sensuelle, essentiellement sensuelle. Donc l'intégrité de son corps, hein, il a la bouche qui est bâillonnée, l'intégrité de son corps sur les pénétrations de choses qui rentrent à l'intérieur de son corps. Et il y a une autre scène très très intéressante, je crois que c'est dans le 2 avec le français. Déjà le personnage de le français.
De Lambert vraiment, Wilson, donc je crois que c'est. Ah, j'ai oublié son nom. Il a un nom français, justement.
Ouais. Mais j'ai oublié aussi, mais c'est pas très grave.
Enfin, c'est un ancien élu.
Et le français est déjà dans une relation liée à la sensualité, hein, puisqu'il peut provoquer des orgasmes à distance dans le restaurant. On est vraiment là dans une relation sexuelle explicite, dans une description sexuelle explicite. Et surtout, ce qui est très intéressant, que j'ai trouvé assez fascinant d'ailleurs, c'est ce qui va se passer sur l'histoire des clés. C'est-à-dire, on a ce personnage de la jeune femme qui a le pouvoir de lui dire, de lui révéler qui détient les clés, je crois. Et pour qu'elle révèle à Neo, elle va obliger Neo à l'embrasser devant Trinity.
C'est-à-dire c'est Isabella Gianni.
Voilà, elle exige de Neo d'avoir une embrassade. Donc elle pourrait lui demander, la métaphore c'est
dans les toilettes.
Elle pourrait lui demander d'avoir une relation sexuelle avec lui. Mais comme on est dans un film, c'est juste une embrassade amoureuse. Et comme Neo le fait un peu du bout des lèvres, elle insiste pour que ça soit sincère. Et c'est intéressant parce que là encore, on est dans une mise en scène qui est métaphorique d'une relation de, comment on pourrait dire, de triolisme, hein, une relation de sexuelle à trois dans un contexte de contrainte où l'un des personnages est obligé d'avoir une relation sexuelle devant sa compagne avec une tierce personne. Donc on est très explicitement là dans une mise en scène sadomasochiste.
Mais alors moi, en tant qu'interprète un petit peu plus littéraire, j'ai tendance à voir les métaphores sexuelles comme des choses qu'on va cacher pour nourrir le récit. Mais en t'écoutant, je me rends compte que c'est vraiment une double narration. Ça veut dire que toute l'histoire avec les robots, ça, on s'en fout complètement. En fait, si je comprends bien, la seule histoire qui est importante, selon toi, ou alors l'histoire... Les deux plans de l'histoire sont indépendants.
Non, justement, non.
On a l'impression que c'est ça.
Non, justement, c'est ça qui fait la force et qui est très dur à maîtriser. C'est qu'elles sont redondantes. C'est-à-dire qu'il va y avoir... elles vont avancer en parallèle. On a à la fois une première narration explicite qu'elle gérait, la narration littéraire, c'est-à-dire le scénario explicite qu'on nous raconte, et on va rajouter à ce scénario explicite un certain nombre de niveaux métaphoriques qui viennent renforcer ou accentuer le discours principal. Alors après, le second niveau de narration peut être le niveau principal. Par exemple, dans Alien 1, la double narration, c'est l'histoire d'un phallus qui poursuit Ripley, et ça, c'est la narration principale. C'est-à-dire, dans Alien Alien 1, la narration principale.
Tu devrais
principale
pitcher des films à Hollywood.
Et vraiment.
Je veux que vous produisiez mon film. C'est l'histoire d'un phallus qui poursuit une femme.
Voilà, mais c'est ça.
2 millions.
C'est exactement ça. Et ça, c'est la, et après tout le film, on va développer autour de ce thème-là pour l'enrichir. Alors que dans Matrix, c'est le je dirais que c'est le contraire. Il y a quand même une histoire très complexe qui a été débattue, qui a fait beaucoup d'analyses, qui est l'histoire principale avec la relation au monde virtuel et le mélange entre est-ce que la réalité n'est qu'une illusion, etc. Et par-dessus, il rajoute une narration sexuelle qui vient renforcer le discours principal. Mais les deux sont riches. Pour moi, les deux sont riches. Les deux niveaux de lecture sont tous les deux riches et se complètent.
Et alors, qu'est-ce qui va... Il se transforme, Néo. Donc, il est initié et il est élu. Donc, c'est quoi cette progression du 1 au 2 au 3?
À la fin, il fusionne sexuellement avec la machine. Mais une fois qu'on a la clé de la métaphore, toutes les structures, les machines, les engins, la pénétration qui va se faire de l'ovule, je dirais, de là où ils sont réfugiés, de la base enterrée où ils sont.
Zion.
Voilà, c'est ça.
C'est la dernière base des êtres humains.
Voilà, c'est ça, où les machines vont aller effectuer une sorte de viol. Ils essaient d'ailleurs. Après, bon, je ne l'ai pas...
C'est vrai qu'on dirait des petits spermatozoïdes. Quand ils font un trou dans la coupole, ils rentrent.
Oui, oui. Mais c'est comme 2001. Hein. 2001, il y a une structure similaire dans 2001. Il y a un énorme
2001,
spermatozoïde. 2001,
l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.
C'est un gigantesque spermatozoïde qui est le vaisseau spatial qui va féconder l'univers. Hein. C'est la structure même du film avec cette image surréaliste à la fin du bébé gigantesque qui grandit dans l'univers. Donc on a même, une fois qu'on a la clé de la métaphore, elle est monstrueusement explicite sur toute cette partie mystérieuse du film.
On va réécouter un petit peu de musique et revenir dans 5 minutes.
My future. I don't know. I don't see my future really right now, so.
Silicone Radio, le futur, prends le micro.
Silicone Radio.
Alors on est de retour avec Yasmine et Jessica, qui est toujours là, qui parle pas beaucoup alors qu'elle aime bien toutes ces thématiques.
Ouais, je parle pas beaucoup parce que c'est vrai que je me sens pas spécialiste de Matrix, tout ça. J'arrive pas à faire de, tu vois, j'arrive pas à faire à rebondir.
Bon, écoute, on termine sur Matrix et on va partir sur d'autres films. Et la dernière chose qu'on pourrait dire sur Matrix, la dernière question que j'ai, c'est Neo a été initié, mais visiblement les créateurs de Matrix aussi. Parce qu'au départ, c'était Andy et Larry Wachowski. Et quelques années après la fin de la trilogie Matrix, c'est devenu Andy et Lana Wachowski. Donc en fait, le deuxième frère a changé de sexe. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Est-ce que tu as une réaction ?
Oui, absolument. Matrix, pour moi, est un film emblématique de notre modernité à cause de ce qui se passe autour de Matrix. Alors, pourquoi est-ce que cette dimension sadomasochiste ou BDSM autour de Neo est importante ? C'est parce qu'il y a une certaine pratique du BDSM dans notre modernité, nous transcende, nous permet de nous transformer, nous confronte à notre corps, à la féminité de notre corps, en particulier quand un homme, ou inversement. C'est-à-dire qu'il y a des jeux du transgenre déjà dans le BDSM. Il y a des transgressions à la fois de notre relation à la pudeur, à la relation au corps, à la relation à notre genre. Et le fait qu'un des frères Wachowski donc, va se faire transformer en femme, ce qui n'est pas du tout neutre, c'est quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'il va donc du coup assumer la dimension, plus qu'assumer la dimension féminine de son identité, puisqu'il va passer de l'autre côté de son genre, nous raccorde pour moi directement à une pensée moderne qui sont les gender studies et le queer. C'est-à-dire que pour moi, clairement, les frères Wachowski sont en tout cas immergés ou font partie de cette nouvelle mouvance de la relation au corps, de notre relation. Alors, les deux éléments qui me paraissent importants, en plus Matrix est un film de science-fiction qui met en scène des entités. Alors c'est très important, il met en scène un monde virtuel où les corps se transforment. C'est la même chose que, je dirais, Second Life, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes dans un monde informatique, nous sommes des cyborgs, en l'occurrence dans Second Life des cyborgs de pixels, là on est des cyborgs numériques, et les corps, les personnages se transforment en permanence. Et nous entrons, c'est emblématique pour moi, de cette modernité où il y a une remise en question de notre identité physique, biologique et sexuelle, par à la fois la biologie et la médecine, mais aussi par l'image qu'on s'en fait. Et dans le discours de... Et là, je parlerai de Donna Haraway. Donna Haraway, c'est cette chercheuse américaine qui va écrire un texte qui s'appelle « Le manifeste du cyborg ». Qui est un texte excellent.
C'est assez ancien déjà.
Oui, ça date, pas si ancien que ça, ça date des années 80. Ça date des années 80. Et ce texte-là est devenu emblématique d'un mouvement qu'on appelle le queer, que j'aime beaucoup. Et en gros, avec cette idée qui a d'ailleurs provoqué la lyre de nos élus récemment, puisque les gender studies ont été évoqués dans le contexte scolaire et ça a provoqué des réactions extrêmement négatives. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que notre genre est distincte de notre sexe et de notre orientation sexuelle. C'est-à-dire on définit trois choses, l'orientation sexuelle, le genre et notre sexe biologique. Et on peut avoir un genre masculin alors que nous avons un sexe biologique féminin et réciproquement. Et déjà, cette idée est extrêmement à la fois provocatrice et dérangeante, mais avec une très grande pertinence dans la réalité de la diversité des humains. Et on va défendre le queer qui va... Le queer, je crois que c'est important d'en parler un petit peu, c'est-à-dire que le queer, au départ, c'est une expression qui sert qui est dévalorisante, qui était faite pour stigmatiser, on va dire, le milieu gay, et puis qui va être repris par les gays, qui va être repris à nouveau par les lesbiennes américaines pour dire mais arrêtez de vous enfermer dans des communautarismes, arrêtez de vous enfermer dans des définitions. Nous sommes, au niveau genre, au niveau identité sexuelle, ce que nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons, et nous pouvons faire ce qu'on veut quand on veut. Et cette affirmation d'un affranchissement, moi je le trouve très intéressant et passionnant. Et donc on rentre dans une modernité où il y a de plus en plus de gens actuellement qui affirment, qui assume de dire j'ai une identité masculine, mais je peux avoir une identité féminine, je peux avoir un jeu, une posture masculine ou une posture féminine. Et justement, l'un des frères Wachowski va se transformer en femme, et le film décrit tout un contexte où, par la modernité, par la technologie, on change de corps et on se transforme. Donc je pense que l'un des messages subliminaux, l'un des messages cachés du film, c'est cette flexibilité que le futur nous propose, cette flexibilité, cette versatilité qu'on peut maintenant adopter vis-à-vis de notre identité biologique sexuelle.
Les auditeurs pourront peut-être être surpris qu'on parle de queer et du mot cyborg. Enfin, on imagine que l'origine du mot cyborg, ce serait un bouquin de science-fiction, parce que les cyborgs, c'est Terminator. Alors, quel rapport entre cyborg et queer ?
Alors, le mot cyborg est un mot qui a énormément d'entrée. Donc là, dans le contexte dans lequel je parle, c'est le sens que va lui donner Donna Haraway. Donna Haraway est très provocatrice avec son texte sur le cyborg, hein, sur le manifeste du cyborg. En gros, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'elle prend le contre-pied du robot. Le robot a toujours eu une dimension assez virile, à part les robots gynoïdes, mais les robots ont souvent été gendrés. Alors que le cyborg a dit, le cyborg, il est ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est-à-dire que justement, elle va dire, le cyborg, c'est une machine, c'est une entité artificielle qui n'a pas de genre. Donc il peut être masculin, il peut être féminin, il peut être aussi autre chose, d'ailleurs. Et cette revendication de non-genre, justement, elle se sert du cyborg comme figure emblématique pour dire, notre genre peut être distinct de notre sexe biologique. Voilà.
Alors là, maintenant, moi, j'aimerais qu'on se fasse une petite séquence de surinterprétation. Il va falloir que tu sois très vif. Je vais te donner des noms de films et tu vas me dire où est le sexe. Commençons par un terrain inconnu. Commençons par Alien. Pas plus d'une minute par film. Hein. Le mieux, c'est 30 secondes.
Alien, c'est à chaque... Alors, j'irais le contraire, d'ailleurs. Celui qui peut-être a le moins de métaphores sexuelles cachées, c'est le deuxième, celui de Cameron. Par contre, le premier est clairement l'histoire de la violence phallique. Hein, c'est-à-dire qu'on a un phallus à pattes, c'est très volontaire, d'ailleurs, c'est quasiment explicite de la part des scénaristes, et en particulier de... J'ai une anecdote, d'ailleurs, intéressante, mais peut-être on la parlera raconter.
Vas-y.
De Dan O'Bannon sur... c'est Moebius qui me raconte ça un jour où je l'ai interviewé. C'est qu'il m'a raconté, il a participé à la genèse de, précisément, et d'Alien et du Dune de Jodorowsky. Et Moebius me raconte en fait que lorsque Jodorowsky, qui s'était beaucoup investi dans la fabrication de son Dune, s'est fait déposséder de son film et de son projet par les De Laurentiis, Dan O'Bannon, qui s'était beaucoup investi dans le scénario, est rentré déprimé à Los Angeles. D'après, alors évidemment, tout ça c'est entre guillemets, hein, d'après ce que me raconte Mub, c'est il fait une sorte de dépression anorexique où il dégurgite tout ce qu'il mange et ses potes lui disent mais tu peux pas rester comme ça, il faut que tu écrives quelque chose, fais quelque chose. Et à ce moment-là, Dan O'Bannon aurait dit je vais écrire le scénario le plus abominable qu'on ait jamais écrit à Los Angeles, et il écrit le scénario d'Alien. Donc Alien serait né de la
régurgitation.
De la régurgitation, de la haine qui s'est chopée à l'effondrement du projet Dune. Évidemment, ça sous toute réserve d'une conversation privée que m'a donnée Mub. Mais je trouve l'explication assez pertinente. Et donc, il va charger le film d'une violence que Ridley Scott va gommer. Et on va retrouver donc, de façon très explicite, des tas de dimensions sexuelles, puisque le choix du monstre d'Alien, ça tout le monde le sait, est parti d'un dessin de Giger qui était déjà sur le projet de Dune et qui est clairement membré. Donc il y a une dimension sexuelle explicite. Puis il va y avoir pendant tout le film, et ça il faudrait presque une émission entière pour les détailler, tout un tas d'images sexuelles subliminales. Et en gros, le film, c'est la violence phallique masculine qui poursuit Ripley jusqu'à ce moment de grâce où elle se retrouve enfin toute seule avec le monstre dans l'alcôve. Mais
avec
où elle
la
va être,
fameuse petite culotte blanche de Sigourney Weaver.
Elle va être très castratrice, c'est-à-dire qu'elle va, elle va à la fois castrer le monstre et lui donner naissance, puisque la fin de Alien 1, on a la naissance de l'alien qui est éjecté du vaisseau spatial dans, non pas des flammes, si vous regardez bien le film, mais dans des eaux. Le vaisseau crache de l'eau, ce qui est très étonnant, les eaux de la naissance ou de la fausse couche. Le deuxième, bon, j'en parlerai pas trop parce que elles sont pas si vides, enfin, il n'est pas vraiment structuré. Je trouve pas que Cameron a exploité
chez Cameron,
structure,
les métaphores sexuelles, c'est les gros guns avec des nanas qui les portent. Enfin, c'est quand même
voilà.
C'est
mais très... par contre, le 3 a eu une image très militante homosexuelle lesbienne, c'est-à-dire qu'il a été longtemps diffusé dans les boîtes de nuit lesbiennes. Et c'est surtout le 4, moi, qui m'éclate, parce qu'en gros, la métaphore cachée, la double narration dans le 4, c'est l'apologie de l'homosexualité féminine castratrice. C'est-à-dire, pendant tout le 4, les femmes passent leur temps à castrer les mâles.
60 secondes.
À castrer les mâles, à couper les couteaux, et c'est quasi explicite, et on pourra en parler aussi.
On en reparlera quand on fera une émission sur Alien. Ouais. Maintenant, Indiana Jones, 30 secondes.
Ah non, j'ai pas, je
ah
peux
si.
Pas, je joker sur
Joséphine Ange Gardien.
Non,
Louis la Brocante.
Il y a tout un tas de films où ça n'est pas. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ne vont pas le faire, hein, qui ne vont pas jouer sur ces jeux de métaphores sexuelles. C'est important, c'est-à-dire qu'après, on peut faire de la surinterprétation et voir des
mais
choses.
Oui, tu peux, mais il faut.
Mais, j'ai pas fait l'analyse d'Indiana Jones. On doit certainement pouvoir en trouver, mais là, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé parce que ça m'excite un peu moins. Par contre, il y en a un qui m'a bien excité, hein, où il y a des métaphores sexuelles en permanence. C'est Le Seigneur des Anneaux de.
Ah.
comment il s'appelle, ça y est,
de Peter Jackson. Jackson.
Voilà. C'est, ça n'arrête pas pendant tout le film et c'est génial, c'est assez jubilatoire.
Tu peux nous donner un petit exemple ?
Je n'ai aucun élément qui permette de penser qu'il l'a fait volontairement. Par contre, déjà dans le roman, il y a une structure métaphorique.
Relation homosexuelle aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a une structure métaphorique qui est déjà présente dans le roman, qui va mettre en exergue, qui est, moi je dirais, dans le
Frodon
roman.
Frodon et Sam, pardon.
Dans le roman de Tolkien, déjà dès l'origine, on a l'histoire de la. Comment on va dire, du passage du jeune adolescent mâle qui a sa fraternité homosexuelle avec ses potes et qui est mise en danger par la femme. C'est-à-dire que c'est la puberté, la relation avec la femme va du coup casser cette espèce de compagnonnage intime qu'il entretient de façon homosexuelle, même métaphorique, pas forcément physique, avec ses potes, et où il va devoir justement, avec l'anneau du mariage, hein, qui va jeter dans le volcan vulvaire, qui tout ça exprime le moment où l'adolescent, le jeune adolescent mâle, va devoir rompre avec sa communauté masculine, son homosexualité, soit métaphorique, soit réelle, pour aller vers la femme et aller vers la maturité. Et donc on va retrouver cette structure-là dans le film de Peter Jackson, et puis avec d'autres métaphores quasi explicites, par exemple l'œil de Sauron.
L'œil de Sauron, c'est absolument. J'arrive même pas à comprendre comment chose a passé.
Fait assez l'unanimité.
Ah oui, il fait carrément l'unanimité. Est-ce que tu pourrais faire un peu de freestyle sur Star Wars ? Il y a quand même des choses à dire
oui,
sur Star Wars.
Oui, absolument. Alors dans Star Wars. Dans Star Wars, il y en a un qui m'a frappé. Alors, il y en a un qui est étonnant. C'est celui. Alors, c'est con, je ne l'ai pas entièrement en tête. C'est celui où il se retrouve dans une chaîne de montage. Si je ne me trompe pas, avec des machines qui sont en train d'essayer de pénétrer en permanence.
Mais attends, c'est de la nouvelle trilogie, ça.
Ouais, c'est ça.
C'est l'épisode.
Ouais,
c'est l'épisode 2.
Ouais,
c'est l'épisode 2 quand ils sont sur une sorte de planète rouge qui n'est pas Tatooine et qui vont essayer de choper des mecs ridicules qui ont les plans de l'étoile noire. Quel film de merde.
Non, mais. Je ne vais pas le faire, La Guerre des Étoiles, parce que je l'ai pas. Il faudrait, pour le faire sérieusement, il faudrait que je me les tape à fond. Et c'est des films. C'est des
Dark
films
Vador,
où...
enfin. Il n'est pas BDSM, Dark Vador.
J'aurais tendance à dire qu'il y a. Paradoxalement.
C'est tellement sérieux pour toi que tu veux absolument pas te risquer à faire une interprétation sexuelle qui ne soit pas parfaitement solide.
Oui, voilà, qui soit pas bien
c'est
étayée.
C'est sérieux.
Je veux pas m'avancer sans bien étayer mon discours avec des choses vraiment explicites. Parce que sinon, on part en live, mais t'as raison, il y a la jubilation de la surinterprétation. Mais,
ah, oui.
Mais moi, j'aime bien quand ça reste imparable. Vraiment cohérent et imparable.
Et il n'y a pas ça dans les films français ?
Moins, beaucoup moins, mais c'est toujours présent. Y en a qui jouent avec ça, mais après, moi je dirais que c'est une tradition de la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a peu de films français, de grands films français de science-fiction. Et en fait, si on remonte dans l'histoire de la science-fiction, on s'aperçoit que les jeux de métaphores sexuelles, par exemple dans les pulps, les couvertures de pulps, c'est omniprésent. C'est-à-dire que dès le début, les illustrateurs de science-fiction jouent avec ces niveaux-là. Et d'ailleurs justement, j'ai créé dans le No Museum, j'ai contacté parce que. Tout l'enjeu là-dedans, c'est de pouvoir vérifier. Par exemple, il y a des métaphores sexuelles chez Jérôme Bosch, sauf qu'on n'a aucun texte de Jérôme Bosch où je ne peux pas téléphoner à Jérôme Bosch pour lui dire « Dis-moi, est-ce que c'est vraiment une métaphore phallique que là, tu as fait avec tes deux oreilles et ton couteau ?» Par contre,
enfin, c'est extrêmement manifeste chez Jérôme Bosch quand même.
Oui, mais dans ces cas-là, si tu veux, la démarche, la rigueur, c'est d'essayer d'avoir des éléments qui permettent de confirmer, si tu veux, la volonté réelle de l'auteur de le faire. Et là, par contre, pour les auteurs contemporains, c'est facile. Il suffit de les appeler. Donc, j'ai, par exemple, dans le Festival de Science-Fiction, j'ai rencontré Philippe Caza et je lui ai dit, est-ce que tu joues volontairement avec des métaphores sexuelles
Philippe
dans tes bandes dessinées ? Philippe Caza, c'est un dessinateur de science-fiction assez connu qui a illustré, qui est un des grands illustrateurs de la science-fiction, qui fait partie de toute cette génération comme Druyer, Moebius, qui ont vraiment générer une esthétique contemporaine et qu'on fait l'histoire de la BD de l'esthétique moderne de la SF en particulier. Et Philippe Caza, quand je lui pose cette question, il m'a fait un immense plaisir, c'est qu'il m'a renvoyé immédiatement toute une série d'images en me disant toute cette BD, tout ça, ce sont des métaphores sexuelles volontaires. Et en particulier, à la sortie d'Alien, il avait fait dans Pilote, je crois, une BD pastiche, hein, où il pastichait précisément Alien et où il mettait en exergue précisément les mêmes métaphores sexuelles que je perçois, qu'on peut analyser dans le film. Donc tu as Philippe Cazin, tu as comme illustrateur évidemment Giger. Giger passe son temps à jouer avec les métaphores
sexuelles.
Donc celui
qui a dessiné l'alien de Ridley Scott, entre autres choses.
C'est ça. Et tu as Drouillet, Philippe Drouillet, qui joue à ça. Möbius. Möbius
voilà,
aussi,
est-ce que tu peux nous parler un peu du regretté Möbius?
Möbius, un jour pareil.
Pour terminer cette émission et recommencer la
suivante.
D'une
série d'interviews que j'avais fait pour Arte. Je lui avais posé la question. D'ailleurs, j'ai un petit extrait. J'ai deux extraits intéressants autour de Möbius. Dans un, c'est sur mon site où Möbius, lorsque je l'interview, me dit « Ah, mais mon imaginaire érotique est tellement abominable, tellement monstrueux, tellement terrifiant que jamais j'oserais le représenter. » Donc c'est une remarque intéressante. Et d'autre part, il m'avait dit, mais donc là, pareil, en aparté, il m'avait dit, mais tu comprends bien quand... Donc il y avait cette BD où les personnages ont des espèces de gros phallus sur la tête. Ils ont des espèces de grands nez et de grands phallus.
Je hoche la tête, mais je ne sais pas. Mais
et,
oui.
Et là, il m'avait dit clairement, il me l'avait dit, que c'était clairement une métaphore phallique quoi, qui était mise dans le design du personnage.
Mais il s'est lâché après, sur les métaphores sexuelles.
Alors, il s'est lâché, il s'est jamais caché, en fait. Il en met régulièrement dans toutes ses œuvres. Möbius, ce qui fait la richesse de Möbius, c'est qu'il n'y a pas, d'ailleurs, il n'y a pas que des métaphores sexuelles. Elles sont présentes, mais il y a d'autres métaphores. Il y a beaucoup de métaphores mystiques. Il y a beaucoup de métaphores qui sont très fortes et qui sont très parlantes. Il y a une poésie très, très forte chez Möbius. Et par contre, il y a des œuvres qui sont peu connues, qui sont carrément explicites. C'est-à-dire qu'il a sorti un recueil de dessins sadomaso, enfin BDSM, clairement BDSM explicite. Donc qu'il était aussi intéressé, en tout cas par cette esthétique-là, et j'étais assez surpris d'ailleurs de voir qu'à son expo à la Fondation Cartier, il y avait un de ses dessins les plus explicites qui était exposé au public de ce recueil. Il n'y en avait qu'un.
Alors, une dernière chose, en fait, j'aimerais revenir à Matrix avant de terminer. Justement, ce rapport entre érotique et mystique, on le voit entre le 1 et le 3, parce qu'il commence par une initiation BDSM et il termine en croix sacrifiée. Donc, est-ce que c'est pas aussi un commentaire des frères Wachowski sur le côté BDSM de Jésus-Christ ?
Certainement. Mais le côté BDSM de Jésus-Christ n'est pas trivial. Hein, c'est-à-dire que. Juste une aparté, parce qu'on a dérivé sur d'autres auteurs.
Ah, on a dérivé.
Je voulais juste dire quand même qu'il faut bien penser que les artistes, les graphistes savent ce qu'ils font en général. C'est-à-dire que quand ils mettent des images, ils maîtrisent des images, surtout des génies comme Möbius, c'est pas du tout par hasard. Et en particulier, les métaphores sexuelles ne sont pas là de façon inconsciente. Mais elles peuvent l'être. Je raconte juste cette anecdote. Il y avait un vernissage de café salé dans ce bar-resto assez branché, là, j'ai oublié le nom. Et il y avait plein de graphistes à ce moment-là. J'ai posé la question en disant est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des métaphores sexuelles volontaires dans leurs œuvres ? Donc il y en a certains que ça a énervé comme question qui sont partis. Il y en a qui m'ont dit oui, moi je le fais volontairement. Et il y en a un qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il m'a dit oui, moi j'en mets, mais je ne fais pas exprès et ça m'énerve beaucoup. j'ai trouvé cette remarque très, très sincère et très, très amusante. Et sinon, par rapport donc à ce que tu me disais, ça y est, j'ai perdu, du coup, je me suis perdu, j'ai oublié ce que tu me disais.
BDSM, Jésus-Christ ?
Ah oui, BDSM, oui, ben oui, mais bon, absolument. Mais la relation.
Tu disais qu'elle n'était pas triviale, cette relation-là.
Ben voilà. Non.
Je voulais comprendre ce que ça voulait dire.
Elle est très loin.
On a tous envie de comprendre.
Très très loin de la relation, là, précisément à, comment on va dire, à la souffrance du christianisme. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une relation du christianisme très très forte à la souffrance, à l'abnégation, au péché. Et on va souffrir, on va se mortifier. Hein, il y a la mortification. Et donc, il est clair que le BDSM va explorer les mêmes territoires. C'est-à-dire que la souffrance physique, et il ne faut pas exagérer, parce que la souffrance du Christ est une souffrance extrême. Les BDSM est plutôt une souffrance assez légère et assez ludique. Mais quelque part, on va explorer notre relation à la fois notre corps et notre esprit, et l'imbrication de l'esprit et du corps. Et à travers l'exploration du BDSM, on va y avoir des phénomènes où on va se transcender. Et donc, il n'y a pas de hasard qu'on peut retrouver à la fois dans une religion comme le christianisme et dans des pratiques qui sont des pratiques liées à la sensualité, à la sexualité, penser à l'esprit aussi, parce que l'esprit est très important, des corrélations. Et il n'y a pas de hasard non plus qu'un film comme Matrix, qui traite précisément de notre relation au monde, d'une relation transcendée au monde ou immanente, c'est-à-dire qu'on aurait une réalité autre qui est en parallèle à la réalité que nous croyons voir, qui vient se superposer ou qui serait structurelle, c'est une métaphore aussi métaphysique. Une métaphore métaphysique qu'on peut raccorder clairement à des origines qui peuvent être à la fois chrétiennes, mais métaphysiques, moi je dirais, d'ordre général.
On a parlé d'initiation. Tu as dit que la quête des signifiants sexuels, cette quête un peu ésotérique que toi tu avais faite en regardant les films image par image, on a dit que ça c'était une chose plutôt bien. Est-ce que tu encourages les auditeurs à faire cette quête, à essayer de déchiffrer, et pourquoi ? Est-ce que c'est une sorte de nouvelle forme d'ésotérisme que de chercher les bits dans les films mainstream ?
C'est l'expression, oui, absolument, absolument. Mais non, moi j'aurais tendance. Non, on fait ce qu'on veut, de toute façon.
Faites ce que vous voulez.
Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que l'art, c'est le plus haut niveau de traitement de l'information de l'humanité. Donc, soit on se met dans une position de consommateur, hein, c'est-à-dire qu'on consomme de l'art pour le plaisir de consommer, et il n'y a pas. Moi, je trouve ça très bien aussi, hein, j'ai aucune posture élitaire par rapport à ça. Et puis, une des jubilations qu'on a, mais c'est une jubilation spirituelle, c'est justement d'aller explorer des zones complexes, d'informations complexes. Et donc l'art, que ce soit les arts classiques ou les arts modernes, c'est des cathédrales, hein, c'est-à-dire explorer une cathédrale ancienne et essayer de comprendre comment est structurée, quelles sont toutes les iconographies d'une cathédrale, toutes les références historiques et artistiques d'une cathédrale. Et explorer les cathédrales modernes, que sont des films comme Matrix. Matrix, c'est une cathédrale moderne pour moi, c'est-à-dire c'est un OSCAF, c'est un immense vaisseau qui véhicule de l'information, qui nous donne accès à une information complexe, et d'aller gratter, d'aller chercher ce qu'il y a derrière l'information, quelles sont toutes les implications informationnelles qu'il y a derrière un film de cette envergure-là. C'est extrêmement jubilatoire et passionnant. Et donc, la première clé, je dirais, pour avoir des sens cachés, la plus facile, la plus potache, ce sont les métaphores sexuelles. Mais il y a d'autres métaphores derrière. Il y a d'autres métaphores beaucoup, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, qui vont ouvrir vers d'autres horizons. Et je trouve que ça enrichit notre relation à l'art, ça enrichit notre relation au monde, ça enrichit. Et c'est notre devoir. Alors après, le devoir de l'artiste, en tout cas, pour moi, c'est d'aller là. C'est-à-dire notre devoir en tant qu'artiste, et en tant que consommateur, on fait ce qu'on veut. En tant que spectateur, on fait ce qu'on veut, et on a la relation qu'on veut aux œuvres d'art. Mais par contre, moi, je pense qu'un artiste, son devoir, c'est d'aller explorer les zones les plus cachées, les plus secrètes de la sphère informationnelle. Nous sommes équipés cognitivement pour franchir les Himalayas informationnels et bien aller explorer les Himalayas informationnels et pouvoir en revenir relativement intègre.
Alors maintenant, merci beaucoup Yann-Min. Je te passe la main, tu deviens l'animateur radio et tu vas faire un petit lancement. Tu vas nous dire ce qu'on va écouter dans 10 minutes parce que je crois que c'est ton émission dans 10 minutes.
Alors dans 10 minutes...
Tu vas faire un petit lancement et à la fin tu vas faire une petite inflexion de voix et Jessica va lancer un jingle, tu vas voir. Vas-y,
alors, dans 10 minutes, bientôt, en fait, nous allons avoir la dernière émission, la quatrième émission des contes de la noosphère. Alors là, je vais prendre ma voix intime, ma voix de noonaute. Chers amis, nous allons, d'ici quelques minutes, embarquer à bord du noosCAF de Silicon Maniac pour nous engager dans les voies secrètes, les voies cachées de la noosphère. Et cette émission, cette quatrième et dernière émission, sera consacrée au cybersexe, hein, avec comme invité Swazik S, l'artiste Swazik X, et l'artiste exploratrice du cyberespace, hein, du cybersexe, Sylvie Mexico.
N'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.